Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode avec un peu de retard cette semaine. On a pris le temps de savourer ce match 7 entre les Clippers et les Mavericks. Et pour en discuter, j'ai avec moi dans un espèce de tête-à-tête, on n'est que deux aujourd'hui, Madiane, comment ça va ?
Eh ben ça va. Je suis triste quand même que le titre du podcast ait été brisé par la forme de Kawhi Leonard hier.
On avait à peu près 74 titres possibles si les deux équipes de Los Angeles étaient éliminées. On avait tellement d'idées et malheureusement pour les fans des Mavericks, heureusement pour ceux des Clippers, Kawhi Leonard et les Clippers se sont donc imposés. On va donc parler aujourd'hui d'un petit bilan pour les Mavericks éliminés et aussi les Lakers qui ont été éliminés plus tôt par une équipe flamboyante des Suns. Il faut le dire, il faut rendre à ces Suns sont le crédit qu'ils méritent. Et puis on va parler en fin d'épisode un peu des matchs 1 à l'Est entre forcément les Nets et les Bucks, entachés par la blessure de James Harden, et puis ce match 1, la victoire surprise, on peut le dire, des Hawks du côté des Sixers. On faisait des petites tentatives techniques avec toute l'équipe pendant ce match. Je peux vous dire donc que j'ai vu Madiane pendant ce match et que j'attends peut-être des réactions salées vis-à-vis de ce match-là. Avant de discuter, du coup, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, que ça soit Apple Podcasts, Spotify ou même YouTube. YouTube, on va faire un live dans les prochains jours, donc abonnez-vous en masse. Et puis suivez-nous également sur Twitter, la petite pause habituelle. Puis on se retrouve et allez, on va commencer par les Mavs, ce podcast. Les Mavericks de Dallas ont donc été éliminés au bout d'une série et d'un match 7 qui a vu pour la première fois une équipe à domicile s'imposer. Madiane, notre objectif ici, c'est un peu d'ouvrir les perspectives pour cette équipe de Dallas qui va, ça a déjà pratiquement fuité dans les heures qui ont suivi cette élimination, probablement re-signer un Luka Doncic avec un contrat monstrueux pour un joueur qui sort de son contrat rookie. Luka Doncic qui a fini cette série, on l'a vu dans le match 7, un peu exténué, voire vraiment exténué. Qu'est-ce que tu retiens de cette série pour Dallas en prévision du futur de la franchise ?
Moi, il y a plusieurs choses que je retiens. Déjà, l'héliocentrisme avec Luka Doncic est quasi indéfendable. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression que les Clippers aient eu des armes spécifiques pour les empêcher de marquer. Or, la méforme de Dallas, c'est-à-dire que c'était Dallas eux-mêmes qui contrôlait s'ils allaient être bien ou pas offensivement. Mais j'ai pas eu l'impression que les ajustements des Clippers, même les meilleurs ajustements, c'est-à-dire que quand ils ont arrêté de mettre Zubac, qu'ils ont commencé avec Batum, ce qui était, je pense, la meilleure formule en l'absence d'Ibaka, ça n'a pas non plus stoppé Luka Doncic outre mesure. Donc déjà, Dallas a une base offensive extrêmement solide, un héliocentrisme extrêmement solide sur lequel ils peuvent compter. Donc moi, je pense que la conclusion de cette série de playoffs encore perdue, ils tombent face à plus fort qu'eux, et pourtant, c'est pas passé loin. Donc, les hypothèses qu'ils ont, il faut garder ce déséquilibre offensif et ne pas chercher à tout prix à compenser défensivement parce que ça ne sert à rien, en fait. Quand tu es aussi fort offensivement, pour moi, ça ne sert à rien de renforcer la défense. Pour moi, c'est l'essence même de ce qu'il faut comprendre de cette série de mon côté. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Je suis assez globalement d'accord. Après, plus qu'un héliocentrisme des Mavs, je me demande si on ne dois pas parler d'un héliocentrisme Luka Doncic, oui. En fait. Si c'est pas carrément ça qui rend... Mais je comprends parfaitement, on va y revenir, mais des séries d'un mec comme Hardaway, d'un Finney Smith, te prouvent que, oui, il faut l'entourer de shooters, et ça a demandé quoi pour battre ses Mavsa? Bah, ça a demandé un Kawhi Leonard vintage. C'est-à-dire... Je l'avais sous-entendu dans quelques podcasts, mais moi j'étais extrêmement déçu des matchs précédents d'un Kawhi Leonard que je trouvais unidimensionnel parfois en attaque et plus vraiment au niveau qu'il nous avait habitué à avoir en playoff. Alors encore une fois, je parle d'un mec top 5 NBA, hein, donc faut faire attention au niveau d'échelle d'attente, mais on a retrouvé un Kawhi Leonard et ça a demandé ça pour éliminer ces Mavs-là. Il y a une stat qui est sortie aujourd'hui. Luka Doncic avait en moyenne la balle 12 minutes par match dans cette série, ce qui est absolument monstrueux. Un match de basket, ça dure 48 minutes. Hein. Il a la balle un quart du temps. C'est à la fois impressionnant, mais c'est aussi peut-être pas tenable. Et c'est ça aussi, je pense, qui ressort un peu cette série, c'est qu'il faut un peu un deuxième porteur de balle. C'est un peu toujours la conclusion que l'on fait avec ces équipes héliocentrées à l'extrême, c'est qu'il faut un deuxième porteur de balle à un moment. Et le vrai souci, c'est qu'un Brunson n'a pas trop joué. Quand il a joué, il était pas très bon. Burke doit pas jouer en playoff. Enfin, c'est pas un joueur qui doit jouer en playoff. Et en dehors de ça, dans les joueurs qui ont beaucoup de minutes, aucun n'a cette capacité de playmaking. Donc c'est peut-être ça aussi un axe pour
eux. Oui, et ça me fait beaucoup penser au débat qu'il y avait dans une des équipes les plus fortes offensivement de ces dernières années, la seconde version des Cavs de LeBron, c'était LeBron et des shooters, où LeBron avait réclamé à l'intersaison, à corps et un cri, un deuxième playmaker. Il avait beau avoir Kyrie Irving, il demandait un pur playmaker. Et pourquoi il demandait ça? C'est parce qu'il a besoin de quelqu'un qui prenne ce relais-là, et on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir ça. C'est-à-dire que Luka Doncic, aussi fort qu'il est, il a tenu l'équipe à bout de bras pendant la première mi-temps du Game 7, et quand il a décliné un peu physiquement, c'est là où les Mavs ont commencé à avoir de plus en plus de mal en attaque, et c'est là où ça s'est enrayé pour eux. Donc, s'il y avait... quelques minutes, mais il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, parce que de toute façon, il va jouer énormément, Luka Doncic, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Un joueur capable d'apporter cette seconde vague de playmaking et de soulager un peu Luka Doncic, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus qu'il faut, c'est-à-dire il faut ce deuxième playmaker, et à côté de ça, un peu, essayer de, si on peut, d'améliorer la qualité des shooters autour, mais franchement, là, déjà, ils ont de quoi faire, et il y a des joueurs qui ont mis sacrément dedans pendant cette série. Mais vraiment, enfin, en tout cas, il faut pas effacer la copie. Il faut juste se dire, c'était pas notre moment. Les gars en face, enfin les Clippers ont été très forts. Faut pas se mentir, et voilà, faut garder la copie.
Je pense qu'on sous-estime un peu les Clippers parce qu'ils sont passés en 7 face aux Mavs, mais les Mavs les Mavs sont une excellente équipe. Hein. Ça ouvre peut-être le débat que tu essayes de mettre en place au niveau de la deuxième option, qu'on essaye de mettre en place au niveau de la deuxième option. C'est peut-être aussi un débat sur la deuxième option actuelle des Mavs, Kristaps Porzingis, qui est extrêmement critiqué vis-à-vis de sa série sur les réseaux sociaux un peu partout. Il est extrêmement critiqué. Alors avant de rentrer dans ce débat-là, ça pose une question un peu plus large. C'était Adrien sur notre discussion à nous qui l'a posé dans l'après-midi. Cette idée de la deuxième option dans une équipe avec un porteur de balle qui accapare autant le ballon. Quand c'est un joueur comme Kristaps Porzingis qui est connu depuis le début de sa carrière comme un joueur qui ne passe pas la balle, c'est-à-dire que c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'un trou noir en NBA, hein, Kristaps Porzingis. Ça pose beaucoup de questions, parce que c'est vrai que quand, du coup, Luka n'est plus sur le terrain, la deuxième option naturelle qui ne l'a pas été pendant cette série, hein, Kristaps Porzingis, n'est pas un joueur qui peut faire fonctionner l'attaque autrement qu'en mettant des tirs.
Oui, et il faut voir à quel point tu maximises l'utilité d'un Kristaps Porzingis quand t'as un mec comme Luka Doncic. En vrai, c'est très dur pour moi... n'importe quel joueur en fait que tu mets à côté de Luka Doncic, c'est très dur pour lui de briller, parce que réussir à briller sans avoir la balle souvent, parce que t'as un mec comme Luka Doncic qui la touche souvent, t'es moins en rythme, c'est plus difficile pour toi, tu n'as finalement que tu la vois très peu la balle et c'est les moments où tu dois tirer. C'est très difficile et c'est parfois pourquoi certaines équipes échouent. Et il faut, par exemple, moi ça me fait beaucoup penser aux Warriors, il faut admirer ce qu'ont fait les joueurs autour quand il a fallu laisser la balle à Kevin Durant parce que tu n'as plus autant la balle et c'est très différent, c'est un autre jeu. Donc oui, Kristaps Porzingis dans cette équipe, il est pas forcément maximisé, mais je lui reproche pas parce que moi je pense que si tu le remets dans des options un peu plus un bis, que là clairement c'est même plus un 2, c'est une troisième option.
Ouais, limite... c'était Tim Hardaway le 2.
Ouais, exactement, c'était limite une troisième option. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes choses qu'on te demande. Et bon, ok, on peut parler défensivement, on peut parler plein de choses, etc. Mais je suis pas sûr que beaucoup d'autres joueurs auraient fait mieux dans le contexte aussi. Enfin, c'est un contexte difficile pour un joueur.
Après, vis-à-vis de Kristaps Porzingis, je trouve qu'il faut pas sous-estimer l'impact des blessures sur ce joueur. L'impact, il est fondamental. Ce qu'on avait entrevu, parce que il faut faire attention. Ce que je lis depuis deux jours, il faut pas réécrire l'histoire. Le trade de Kristaps Porzingis de base, l'idée est bonne. Il faut toujours essayer de séparer l'idée du trade de ce qu'il en devient. Le fait que Kristaps Porzingis s'est perdu en mobilité, que ce soit un joueur qui n'ait plus cette capacité de protection de raquette comme il l'avait du côté de New York, ça c'est totalement dommageable parce que ça aurait pu permettre à cette défense des Mavs d'être un peu meilleure. Il y a aussi un point super intéressant que je trouve, c'est que quand il arrive en 2015, Porzingis est considéré comme une licorne. Et à plus ou moins juste titre. C'est Sam Vecenie de The Athletic qui mettait ça, une série de tweets super intéressante. C'est que, on est en 2021, ça a beaucoup évolué, la NBA. Il y a 5 ans, c'était beaucoup plus rare des joueurs, des 7-footers ou plus, qui shootaient autant en 3 points. Qu'on prenne l'exemple de carrière d'un mec comme Brook Lopez, ça a changé, en fait, la NBA en 5 ans. Donc, Kristaps Porzingis, c'est moins une exception qu'il y a 5 ou 6 ans à son arrivée en NBA. Et ça joue aussi. C'est peut-être que, je pense qu'on aurait peut-être plus laissé passer certains de ces errements défensifs si la NBA n'avait pas totalement démocratisé le grand qui shoot. Après, défensivement, et surtout au niveau du rebond, il y a quelques séquences sur le match 7 et sur d'autres matchs de la série et globalement dans la saison qui sont pas défendables.
Oui, mais d'ailleurs, tu as cité le très très bon exemple, Brook Lopez. Et justement, pourquoi est-ce qu'il est important de le citer? Et je pense qu'on doit un peu discuter en off de cette affaire. En tout cas, ça me dit quelque chose autour de la masse physique qu'il peut représenter. C'est-à-dire que Kristaps Porzingis n'a malheureusement pas cette masse physique qui fait qu'il est... En fait, quand tu n'as pas la mobilité, il faut que tu sois dur à bouger. Là, il a ni la mobilité, mais en plus, il est facile à bouger. Et du coup, au rebond, ça se voit. C'est-à-dire qu'il se fait bouger, il y a des gens plus petits que lui qui... attrape des rebonds. Ça me fait beaucoup penser à pourquoi des joueurs comme Russell Westbrook, au-delà des rebonds où c'est Adams qui lui faisait les écrans pour qu'il chope son rebond, ok, il y avait aussi des rebonds offensifs et des rebonds défensifs qui l'arrachaient au-dessus de gars plus grands que lui par la puissance physique de l'impact. Malheureusement, Kristaps, à l'impact physique, il se fait bouger et donc il est moins efficace. Donc quand tu n'as pas la mobilité, il faut grandir physiquement. Mais quand tu fais cette taille-là, c'est aussi quelque chose de difficile et je pense qu'il est dans un nœud un peu inextricable. J'ai du mal à voir comment il peut s'en sortir à ce niveau-là.
Surtout qu'il fait 2,22, il y a des problèmes de blessures, c'est rajouter de la masse.
C'est pas la bonne idée.
Ouais, je suis pas coach sportif, mais même de mon point de vue, je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça, ok. Mais par contre, on est d'accord pour dire, Madiane, que à l'heure actuelle, au vu de son contrat, hein, il est en contrat encore jusqu'à 2023-2024, c'est une option à 36 millions. Difficile, il y avait Bobby Marks d'ESPN qui sortait un article avec une espèce de... compagnie de data analyse, hein, j'ai essayé de m'inscrire sur leur site, je pense que j'aurai jamais l'accréditation. Bref, en gros, qui mettait que Kristaps Porzingis jouait comme un mec à payer à 17 millions, tu vois. L'année prochaine, il en aura 31 sur son contrat, donc clairement, l'apport sur le terrain vis-à-vis du contrat ne matche pas, mais difficile de le voir se faire trader. Enfin, sa valeur est au plus bas.
Trois ans, quasi sûr qu'il prendra la dernière année. Alors, autant les contrats qui arrivent dans les 18 derniers mois, commence à devenir un peu plus tradable parce que tu te dis, t'as une demi-saison, puis une dernière saison où ça devient super intéressant de l'échanger parce que ça permet à une équipe de libérer du cap derrière. Là, ça va être difficile sans envoyer énormément d'assets. Et est-ce que t'as envie de faire ça? Pas forcément.
Pas
après, ben, si Luca, et il a répondu avec un grand sourire quand on lui a évoqué l'extension, donc ça a l'air d'être quand même plutôt bien embarqué du côté de Dallas. Si Luca accepte de signer, bah, c'est qu'il est au courant de ce qu'il y a. Je pense qu'il n'est pas dupe non plus lui-même. Je pense que c'est un garçon très intelligent, surtout au niveau du basket. Et je pense qu'il comprend très bien ce qu'il en est. Et je pense qu'il sait qu'à 2-3 ans, ce sera peut-être difficile de récupérer beaucoup mieux. Et donc, autant faire avec.
Et on va parler de ça. On parlera peut-être de Tim Hardaway un petit peu aussi. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Tim Hardaway a sécurisé son contrat pour l'année prochaine. Ils doivent le re-signer. Un petit débat sur Luca. Moi, j'aimerais bien t'amener sur ça, Madiane, parce que Luca est une anomalie. Voilà, c'est un mec dans sa troisième, quatrième année. On va vous sortir le DH20, mais pour moi, il est difficilement... C'est quand même difficile de pas le mettre dans le top 5, j'estime. Enfin, bref, on peut même le mettre dans le top 10. Il en est que c'est une anomalie à cet âge-là, pour un joueur de si jeune d'être aussi haut. Est-ce que, limite, niveau reconstruction, ça te pose pas certains problèmes? Parce que moi, je suis pas sûr qu'un mec comme Luca puisse soit d'accord pour attendre 2-3 ans.
Il est trop fort trop tôt. On dit que le titre, c'est souvent une affaire de superstar en troisième contrat. Tu lui mets le bon supporting cast, il discute. Il discute très fort pour le titre. Ouais. Ça discute vite. Et moi, c'était un des regrets. Moi, j'avais beaucoup critiqué ce que faisait Dallas avec son argent parce que je disais, Luka Doncic est en contrat rookie. Tu peux faire l'un des all-in les plus rentables de l'histoire. C'est comme quand Stephen Curry, avec son maigre contrat aux Warriors, c'est le moment où il faut tout péter. Parce que t'as une opportunité, une fenêtre. Là, tu vas être obligé de payer Doncic et Doncic va te réclamer ce qu'il faut pour gagner le titre. Luka Doncic ne supportera pas de rouler sur une équipe pendant toute une série et de ne pas la gagner. Je pense que c'est très dur psychologiquement. T'as roulé sur les mecs en face, mais parce qu'ils sont plus forts collectivement, tu ne gagnes pas. Donc ça est difficile. Après, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, l'extension, le fait qu'il la prenne volontiers, etc. Alors ok, il n'a pas le choix. Parce que c'est très dur de sortir de ton contrat rookie. Mais quand même, le fait qu'il sourit, qu'il n'y ait pas de doute, etc. Ça me laisse plutôt à penser qu'il est conscient de la situation. Donc soit Dallas trouve des solutions à court terme, mais en vrai, pour moi, à court terme, il n'y a rien qui se passe parce que le plan de Giannis s'est tombé à l'eau. Donc là, il n'y a rien à court terme. Par contre, tu peux très bien dire, bon, ok, 2021-2022, tu risques encore de te faire sortir au premier tour après avoir fait une dinguerie. Par contre, à partir de 2022-2023, là, ça devient un peu plus négociable parce que Porzingis restera 2 ans. Il y a des contrats, notamment, ben, je ne sais pas si Josh Richardson prendra son option, mais j'ai plutôt l'impression qu'il la prendra.
Vu son impact actuel, s'il ne la prend pas, il doit changer d'agent.
Après, on a vu des dingueries côté Nerlens Noël ou Dennis Schroeder. Donc, on en parlera du cas de Dennis Schroeder plus tard. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que 2022-2023, il y a peut-être moyen de débloquer quelque chose et peut-être qu'ils sont en train de lui présenter un plan. Bon, l'an prochain, on ne pourra pas en une intersaison tout changer. Là, c'est trop difficile de faire bouger l'effectif. Dans 2 ans, moi, je pense qu'il y aura un peu plus d'opportunités sur le marché. Notamment, c'est pour ça que je pense qu'il faut signer Tim Hardaway. Il n'y a pas mieux. Hein. Le marché est fermé, là, à date. Donc, je pense qu'il y a moyen. Et un joueur à Tim Hardaway, ça dépend de sa signature. Mais ça peut devenir aussi des assets tradables assez vite. Si tu réussis à lui proposer 2 ans, un plus gros contrat sur 2 ans, derrière, ça devient un actif tradable. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Donc, moi, je pense que Dallas doit faire un plan en 2 ans. 2022-2023, pour moi, ça doit être une cible pour dire à Doncic, là, tu auras mieux et là, on jouera le titre.
Alors, à voir à quel point il va accepter ça. Moi, après, pour un peu défendre Dallas, je me demande à quel point c'est viable et à quel point c'est possible d'attirer des joueurs de premier plan quand la pièce maîtresse de ton effectif est en contrat rookie. Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment, même si le mec est trop fort, de se dire Ah, enfin, il est en contrat rookie, il a 20 piges. Est-ce que t'y vas? Parce que j'ai essayé en préparant le podcast de fouiller dans ma mémoire qui n'est pas sur la NBA, qui n'est pas encyclopédique, hein, mais en me disant, c'est quand la dernière occurrence d'un mec dans ce genre-là, d'un joueur genre top 20 NBA qui va dans un effectif où il y a un joueur dans le contrat rookie très fort. J'ai pensé à Jimmy Butler, mais les circonstances sont pas les mêmes. Il y a l'affiliation oui. Thibodeau, les Bulls sont en espèce de, sont dans une mutation à ce moment-là. C'est très très difficile de convaincre un joueur. Parce qu'il faut se souvenir que on attire Porzingis année 1 de Luka Doncic. Alors certes, Luka Doncic fait une très belle année rookie, mais c'est difficile à vendre à un joueur du top 20 NBA via un Dallas.
Mais on s'imagine... Enfin, Doncic, limite, pour les plans des Mavs, Doncic est presque trop fort trop tôt. C'est limite ça. C'est-à-dire que en soi... Ils risquent d'avoir, et j'espère pas pour eux, Doncic qui s'impatiente. Mais oui, mais à quel moment on pouvait envisager Doncic l'an dernier, il fait sa première série dans la bulle. On se dit pas que ça va se passer comme ça. Il y a personne qui imagine que ça va être une dinguerie sur 6 matchs. Et là, ils nous refait une dinguerie sur 7 matchs. C'est moyenne, en moyenne de points. Alors ok, les autres, c'est sur 25 matchs minimum. Il est devant Iverson, derrière Michael Jordan. Et il y a le playmaking derrière. On est sur ces standards-là. C'est très grave.
C'est parce que... Et je suis totalement d'accord avec toi. Si tu calcules dans un développement de joueur entre guillemets normal, Porzingis va être free agent quand Luka aura 25 ans. Ce qui en soi est... pour un joueur top 10 NBA, c'est le moment où il va commencer à vraiment, vraiment vouloir jouer le titre et qu'il aura les épaules pour jouer le titre. Luka est une anomalie parce qu'il peut déjà jouer en potentiellement le titre 3 ans avant. Donc ça va se poser cette question-là pour les Mavericks. Un petit mot pour finir peut-être sur les Mavericks, Madiane. Je sais pas si t'as quelque chose à dire.
Non, mais en tout cas, donc le coach n'est pas remis en question. Je trouve ça bien. Et pour moi, l'avenir peut quand même... Enfin, pour moi, c'est très rassurant ce qui se passe pour eux. Ok, ils sortent. Ok, ils sortent. Mais ils auraient très bien pu passer. C'est pas passé loin. Les Clippers sont pas une mauvaise équipe. Et ils ont validé leurs hypothèses de base, sachant que je rappelle que la construction de l'intersaison, c'était pas ça. Ils voulaient gommer leur déséquilibre à l'intersaison, et ils sont revenus en arrière à la trade deadline. Et en revenant en arrière, ils se sont remis à gagner énormément de matchs. C'est pas un vrai site 5 si tu prends que la dernière partie de la saison. C'est du très haut, c'est un faux site 5. Attention à ces Mavericks. Et du coup, l'an prochain, on verra s'ils partent sur les mêmes bases, voir les Mavericks tout en haut de la conférence Ouest n'est pas une aberration. Clairement pas.
Ok. Eh bien, Madiane, tu mets déjà les... Tu annonces les takes pour l'année prochaine. On va aller dans une équipe qui aussi aura les mêmes ambitions pour l'année prochaine. Ce sont les Lakers. Les Lakers, donc, éliminés face aux Suns. Vraiment une fin de saison un peu, surtout une fin de série un peu moche avec un Anthony Davis blessé, revenu trop tôt. Bah t'en penses quoi en fait, Madiane, de cette intersaison? Je me rappelle souvent ESPN, ils ont un auteur Bobby Marks qui met des espèces de, qui fait des bilans prévisionnels, ce qui est du coup pas un bilan en vue de l'intersaison. Et pour les Lakers de titre, je crois c'était reconstruire un roster avec des options limitées. Est-ce que tu es d'accord un peu avec cette analyse-là?
Moi, je trouve qu'ils ont pas la marge du tout de faire ce qu'ils veulent et c'est terrible pour eux. C'est moi, je l'ai jamais caché hein, et je pense que dans le podcast, alors je pense qu'on a l'une des meilleures analyses intersaison sur ces Lakers. On a dit ils seront moins forts en playoff. C'est une équipe plus de saison régulière, manque de bol. Anthony Davis, LeBron James se pète et tu fais pas la bonne saison régulière. Et du coup, en playoff, tu sors vite parce que il y a des joueurs que tu as recrutés qui sont connus de manière notoire pour pas être bons en playoff. Et là, ils sont face à un énorme problème où ils sont capés. Peu importe ce qu'ils font, ils sont capés. Donc, ils sont quasiment obligés de re-signer les gars qu'ils ont. Sachant que c'est pas le matériel qu'il faut pour aller gagner le titre, et ça s'est vu. C'est au-delà de... Les Suns sont très forts. On avait déjà dit, et Allen avait très bien call ça, et on l'avait tous dit, les Suns, c'était pour beaucoup la troisième meilleure force à l'Ouest. en imaginant les gens à 100%. Les Lakers n'étaient pas à 100%, ils se sont fait taper et il n'y a rien à dire. Là maintenant, tu sais que mon Trezor Harrell, tu sais que Dennis Schroeder, c'est pas ce qu'il te faut. Mais en vrai, faut prier pour les garder parce que sinon, ça va pas le faire. Et je pense qu'ils ont, se sont peut-être loupés à la trade deadline où il fallait peut-être les envoyer. Hein. Il fallait peut-être les envoyer à la trade deadline cette saison. Et là maintenant, ils sont face à un mur et ça va être très difficile pour eux de refaire un effectif convenable pour aller rejouer le titre l'an prochain.
C'est là où je suis totalement d'accord. Je veux pas totalement tomber sur Pelinka parce que je pense que le diagnostic de base est le bon. Des joueurs de saison régulière pour économiser LeBron Anthony Davis, c'est un bon diagnostic parce que regardez à l'heure actuelle, finaliste l'année dernière face aux Lakers, le Heat décimé pendant la saison, éliminé, sweepé au premier tour, les Celtics finaliste de conférence à l'Est, éliminé au premier tour dans une saison où ils ont connu beaucoup de blessures. L'autre équipe qui avait affronté les Lakers en finale de conf à l'Ouest, les Nuggets qui passent un tour, mais qui sont décimés dans cette saison-là, je pense que l'idée d'avoir des joueurs de saison régulière était la bonne. Comme tu l'as dit, l'erreur, c'est de ne pas faire le move à la trade deadline. Alors, c'est un secret de polichinelle. Ils ont essayé d'attirer un Kyle Lowry, et je pense que là, parfois, tu es pas totalement maître de ton destin. Il semblerait quand même que les Raptors en voulaient beaucoup pour un Kyle Lowry. Alors, du coup, ça a peut-être un peu rendu la tâche plus difficile pour eux. Mais il aurait fallu un moment adapter le projet. Après, moi, peut-être qu'on va m'accuser d'être pro Lakers, alors que je ne suis pas pour les Lakers, mais je trouve vraiment que c'est loin d'être une contre-performance. Les Suns sont très très forts, l'équipe arrive blessée, il y a des joueurs qui sont pas bons, on l'a vu, on le savait, André Drummond, voilà, comme tout buyout, il y a eu une espèce d'excitation pendant 6 jours, et puis on voit le résultat sur le terrain, alors que d'autres sont bien meilleurs, ouais. dans d'autres effectifs. Donc, tu l'as dit, il faut avoir des contrats, il faut re-signer ces Dennis Schroeder qui avait déjà refusé une extension.
C'était énorme, hein.
En décembre, il avait refusé 2 ans 34. C'était le maximum qu'on pouvait lui offrir à ce moment-là. C'est un joueur qui, visiblement, peut demander aux alentours des 20. Hein, et il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de meneurs, donc ça m'étonnerait pas qu'il puisse avoir un contrat à cette hauteur-là. Il faut sécuriser des joueurs sur la longue durée pour avoir des joueurs à potentiellement échanger. LeBron James a montré des signes de vieillesse. Je veux pas le rayer de la hiérarchie des meilleurs joueurs NBA, mais il faut continuer à rendre. Il faut jouer on est sur du très court terme là. Donc moi je suis désolé, mais garder un Horton Tucker que tu peux peut-être, tu vas peut-être recevoir un contrat poison contre lui cet été, c'était peut-être pas la bonne idée à la trade deadline. Il fallait peut-être les changer.
Non, il y a beaucoup de jeux de. C'était le move qui a été loupé, donc voilà, bah c'est loupé. Après, je pense que typiquement un Kuzma s'il fait des vieux aux Lakers, ce serait très étonnant. Parce que là, il a un contrat long terme à 13 millions et que je pense qu'avec un pic, avec un pic contre un joueur vétéran, ça va partir. Typiquement, ça, c'est le genre de contrat. C'est une excellente nouvelle qu'ils aient réussi à prolonger Kyle Kuzma et à le conserver. Va falloir d'autres contrats longs.
Tu penses qu'ils draftent cette année ? Tu penses qu'ils draftent ? Ils ont leur choix. On n'a pas parlé de draft avec les Mavericks parce qu'ils ont ni leur choix du premier ni du second. Mais tu penses qu'ils draftent ?
Je pense que ça dépend de la situation. Parce que la valeur d'un pic n'est jamais aussi haute que le jour de la draft. Tant que t'as pas drafté, c'est un peu un petit billet de loterie. Tu sais pas si ça se trouve, tu vas tomber sur le bon joueur, etc. Donc je pense que ce jour-là, ils vont être très actifs. Si jamais il y a la moindre opportunité de balancer Kuzma et un pick contre quelque chose, parce que c'est le seul joueur qu'ils peuvent échanger. Hein. Je ne les vois pas échanger KCP. Là, j'ai le team payroll au-dessus. Désolé si je regarde pas forcément la caméra, mais il n'y a que Kuzma qui peut se faire échanger, et éventuellement Gasol, mais son salaire, c'est pas non plus très haut. Mais sinon, en termes de joueurs sous contrat, je vois que ces deux-là. En vrai, Kuzma plus un pick, tu attaches Gasol et tu récupères un vétéran bon, je pense qu'ils signeront, mais tout le temps à la draft. Mais ça dépendra des opportunités. Sinon, bah, tu draftes, ça te fait du salaire, et tu sais que tu peux pareil aussi le balancer plus tard. Donc, il va falloir être malin. Mine de rien, Pelinka, il connaît bien les rouages. Donc, je lui fais confiance quand même là-dessus. Je pense qu'ils ont quand même un management en place qui sait comment ça marche et qui peuvent arriver à trouver des deals intéressants pour tout le monde. Mais la situation dans laquelle ils se sont mises est pas forcément excellente et ça me fait un peu peur pour eux.
Un peu inquiet quand on voit le matériel. Après, moi je me répète, hein, je considère qu'en fait il y a eu, je considère que les deux dernières saisons en sont une. Donc ils ont été champions dans l'une, ils se sont ratés dans l'autre. Pour moi, je m'inquiète quand une équipe ne produit rien sur les deux, parce que ça veut dire que soit t'avais eu le temps de te reposer en dehors de la bulle et t'as rien fait, soit t'as été exténué dans la bulle et beaucoup d'équipes n'ont pas réussi à enchaîner. Ils auront une intersaison avec beaucoup de repos, notamment LeBron James qui a plus ou moins sous-entendu qu'il irait pas à Tokyo. Anthony Davis, pareil, pas surprenant, ils ont passé beaucoup de temps dans la bulle, je pense pas qu'ils aient envie de subir entre guillemets une autre bulle du côté de Tokyo. Donc ils auront le temps de cette intersaison, il faut juste, et ils ont un petit problème, c'est l'arrivée des Nets va faire que les vétérans dans le contrat minimum, on salue Tom hein, qui adore ce genre de discussion, qui sont parfois un petit peu surcotés, c'est vrai, mais ça va pas être le réflexe d'aller du côté des Lakers. Ça a pu l'être il y a un an, ça ne l'est plus vraiment. Il faut aussi que cette intersaison va falloir aussi arrêter de prendre ces joueurs de saison régulière, parce que là, ça se justifie moins. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut re-signer les joueurs qu'on a actuellement, espérer que tout le monde soit en bonne santé, et puis bon, ils ont quand même LeBron James et Anthony Davis, hein, on va se détendre. Mais peut-être calmer certains fantasmes, certains montages avec Damien Lillard, parce que financièrement...
Ça rentre pas, hein.
LeBron James touche 41 millions... Anthony Davis 35.
Et KCP est à 13. Et Kuzma est à 13.
Mais rien qu'avec les contrats de ces mecs-là, déjà, ils ont pratiquement plus l'espace pour un Damien Lillard.
Non, mais ils ont l'espace pour personne, hein, pour avec juste ces 4 contrats-là. Hein.
Ouais. donc voilà. Après, oui, Kyle Kuzma peut-être, mais à voir si sa cote est toujours au beau fixe. Très bien, Madiane. Quelque chose à rajouter sur ces Lakers? Je pense qu'on est parmi les moins alarmistes du monde.
Non, mais parce que c'est ce que j'ai dit. J'avais eu le nez creux, mine de rien, à sentir le coup venir avec les Suns. C'est que c'est exactement ce qui s'est passé pour les Spurs l'année après leur titre. C'est ils arrivent pas en forme en playoff contre une bonne équipe parce qu'ils ont pas le bon seeding à cause des blessures et ils se font taper. Ils se font taper. Je pensais qu'ils seraient tapés en 7, ils se sont fait taper en 6 et... voilà, hein, c'est logique hein, quand t'es pas à 100% face à une trop bonne équipe, ça passe pas, hein, t'avais pas la marge. Donc non, c'est pas inquiétant.
Après, ils avaient pas la marge. Je veux pas faire encore une fois, hein, je veux souligner la vraie grosse
incroyable
performance des Suns, mais Anthony Davis est là. Je suis pas sûr qu'il gagne.
Ils étaient à 2-1 à Los Angeles et sans la blessure d'Anthony Davis, est-ce qu'ils ne repartent pas de Los Angeles avec le bon 3-1 des familles qui va bien et ils perdent la série? Oui, évidemment. Bon, la série s'est passée ainsi. On ne va pas la réécrire. Quoi qu'il arrive, ça pose des questions sur le futur et peut-être que le meilleur move à terme, si tu trouves rien cet été, pour moi, le meilleur move, c'est c'est reparti comme avant. T'inquiète pas, on croit en toi, vas-y, fais-nous 6 bons mois. Et quand la valeur est au plus haut, parce que ces joueurs de saison régulière, Montrezl, il peut faire des très bonnes moyennes, pareil pour Schroeder. Avant le All-Star Game, allez, ça dégage, on part sur, on change le fusil d'épaule comme on aurait dû faire cette année. C'est peut-être ça le bon move, si t'as pas d'opportunité cet été, tu re-signes tout le monde, tu repars comme en 40 et tu les dégages en janvier prochain.
À noter aussi que Alex Caruso sera...
Ouais.
Et lui, très très important, c'est parti de ces rares mecs où lui, c'est pas de la saison régulière. Je trouve que sur la bulle ou ailleurs, il a prouvé. Alors ça sera jamais bon. Il peut jouer, c'est pas à la hauteur de la hype qu'il a sur les réseaux sociaux pour des raisons qui sont toujours étrangères. Mais c'est un joueur qui peut jouer, donc lui doit rester là.
Et je trouve que ce débat autour des Lakers nous signifie beaucoup de choses sur la suite, quand on va parler un peu de la conférence Est. Vous revoyez le nombre de joueurs des Lakers qui ne peuvent pas voir le terrain en playoff. Et comparons avec certaines équipes qui se baladent dans l'autre conférence.
Alors, on aura ce débat-là, on l'a déjà eu hier. C'est parce que il y avait un certain Devin Booker inflammable. C'est-à-dire, en flamme, si... Il y a personne pour attaquer un mismatch, c'est pas un mismatch.
Tout à fait. Mais par contre, il y a des conférences qui sont bourrées d'attaquants sur tes mismatchs. Il y a des conférences où tu peux arriver avec des faiblesses. Tu peux pas te le permettre. C'est, quand t'es les Lakers, quand t'es l'Ouest, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir un trou dans ta défense évident, parce que tu peux tomber sur un arrière en feu, tu peux tomber sur un méga meneur, tu peux tomber sur un ailier en feu. Et en fait, t'as tout le temps un truc qui peut venir. Et pareil, même ton pivot, s'il peut pas défendre le pick and roll efficacement, il suffit qu'il tombe sur le mauvais meneur, il va se faire allumer tout le match. Mais il y a d'autres conférences où tu peux te dire, je peux aller en finale de conférence avec un énorme trou, parce qu'il se peut que je rencontre aucune équipe capable de l'attaquer. Donc c'est pour ça que c'est très dur l'intersaison des Lakers, parce qu'ils sont à l'Ouest et ils sont obligés de tout solidifier, et trouver des joueurs pas négatifs en playoff, peu importe le match-up en face, c'est un exercice extrêmement difficile, et c'est des perles rares en fait, et tout le monde les veut.
Après, là où les Lakers ont peut-être un léger avantage, c'est que eux, ils ont besoin aussi de joueurs offensifs. Là où beaucoup d'équipes ont besoin de joueurs défensifs, ils ont besoin de mecs qui mettent des points, les Lakers. C'est ça.
La défense, ça allait.
Parfois,
hein.
La défense, ça va toujours, c'est Vogel. Ça va toujours plus ou moins, la défense. Ils ont besoin de joueurs de fin de chaîne qui sont un peu plus faciles à trouver. Mais par exemple, Danny Green, qui est pas très bon sur le match 1, hein, c'est la transition, on va bientôt en parler dans quelques minutes de ce match 1 des Sixers, mais Danny Green qui n'est pas bon sur ce match-là, il était très bon du côté des Lakers. C'est pour ça, quand parfois il y a certaines analyses, ils auraient dû garder Danny Green, Dwight Howard, et voilà, je le porte dans mon cœur, regardez son match contre les Hawks. Il y a un moment où il faut peut-être avancer la théorie que certains joueurs, notamment des roleplayers, se sont sublimés dans la bulle, et que là, ils étaient moins bien. Donc voilà pour ces Lakers, ce petit, comme tu l'as appelé dans notre conversation, post-mortem. Je sais plus si c'est toi ou Adrien qui a appelé ça comme ça. Alors, menu de l'Est. Est-ce que je te laisse commencer sur Sixers, Hawks ou Bucks, Nets, sachant que selon nos heures d'enregistrement, fort probable que soit vous les écoutez devant Bucks, Nets et vous êtes les meilleurs. Si vous faites ça, vraiment, vous êtes trop les meilleurs. Soit vous nous écoutez après le Bucks, Nets, vous en avez vu un deuxième et il y a un Hawks, Sixers qui se profile. Tu veux quoi,
commençons par Hawks, Sixers parce qu'ils ne jouent pas ce soir.
Ok. Ah là là.
En fait, je regarde ça avec. J'ai fait toutes les phases du deuil pendant ce match. Où d'abord c'était la colère, le déni de réalité. Enfin, vraiment, j'ai tout. Enfin, le non-match de Philly. Et d'un autre côté, j'étais en mode. N'empêche, avec toutes les conneries qu'ils ont fait, ils passent pas loin de le prendre. Et mine de rien, j'ai réfléchi, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, Trae Young, très très fort, certes, mais je pense qu'ils font les mauvais choix de poison. C'est-à-dire que tu peux pas systématiquement aider sur ce gars-là. Limite, il faut que ce soit lui qui mette tous les points. Mais enfin, les tirs ouverts qu'ont trouvé les Hawks étaient trop nombreux, ouais, à mon goût. Et tu peux pas avoir comme schéma défensif d'aider sur ce gars-là. Alors, ils ont tenté Danny Green, il s'est fait... Mais en fait, peu importe qui mette dessus, c'est un joueur... Alors, même Ben Simmons, je ne l'ai pas trouvé extrêmement brillant à la défense individuelle dessus.
Parce qu'il prend des fautes vite, mais tu vois que ça pose plus de problèmes. Il est trop long, en fait. Mais Trae Young est trop fort pour attirer les fautes. Tu vois bien qu'à la seconde où ils lui mettent Ben Simmons dans le troisième... Trae Young lui met deux fautes et Rivers a plus l'agressivité de... On en parlera, mais Rivers manque d'agressivité dans ce match.
Et moi, je pense que... Enfin, je pense que la solution face à un mec comme ça, c'est pas attendre qu'il puisse driver et faire un kick-out dès qu'il y a une aide, mais peut-être qu'il y a plus de trappes qui doivent être mises en place.
Après, il le...
Pas... En fin de match, c'est comme ça qu'ils reviennent, hein.
Ouais, mais c'est là où je suis moyennement d'accord, c'est que pour moi, la fin de match, c'est une panique des Hawks qu'ils auront pu, peut-être dans un match 2, s'il y a la même solution. Parce que McMillan, il va passer 2 jours à leur expliquer ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire pas griller ses 7 temps morts à 3 minutes de la fin.
Tu as beaucoup de fois en Nate McMillan en playoff, hein.
Ouais, ben au moins leur apprendre à mieux gérer. Je pense que là, équipe jeune en playoff, fin de match où ils voient que le momentum n'est pas de leur côté, des mecs qui tremblent, Werther qui sait plus où il habite, bref, et qui fait une passe quand même magnifique. C'est une situation difficile pour une jeune équipe qui, je rappelle, avait jamais joué de match de playoff il y a 3 semaines. Là, En fait, je te laisse continuer, hein, mais je trouve que se dire que les Sixers étaient prêts, c'est peut-être une fausse analyse. Parce que théoriquement, ils sont quand même à plus 15
tout
le match.
Non, ils sont dans le trou, mais ils ne passent pas loin de le prendre quand même dans le quatrième. Et moi, par contre, je pense que essayer en permanence de trouver des solutions défensives face à cette équipe, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais il y a peut-être moyen de aussi mieux attaquer. Et je suis désolé, j'ai vu trop souvent Trae Young calmement dans son corner avec un mec qui ne bouge pas. Et moi, je suis... Enfin, t'as quand même les Sixers où t'as deux mecs enfin, t'en as même trois qui s'amusaient à poster dans le match. Le problème, c'est que le gars qui postait, c'était jamais lui. Alors, ok, les Hawks switcheront pas, ou switcheront pas forcément, mais il faut un peu les forcer, il faut aller un peu chercher ça. Et je trouve que Doc Rivers, offensivement, ne va pas aller assez chercher. Alors, je dis pas que ça peut marcher, parce que je pense que les Hawks arriveront assez bien à le cacher, et je suis pas sûr que ce soit une telle faiblesse, enfin, une si grande faiblesse que ça. Mais si tu n'essayes même pas d'aller le chercher, et s'il y a des possessions entières où Trae Young est au calme, et doit même pas aller se battre sur des écrans ou sur quoi que ce soit pour aller essayer de ne pas se retrouver dans un match un peu trop gros. Je trouve que c'est du gâchis, il faut au moins essayer. Et je trouve que pareil, là-dessus, s'il n'y a pas un ajustement de la part des Sixers, ce serait extrêmement décevant de leur part.
Par rapport à Trae Young, même théorie, encore une fois, les habitués savent que j'ai poussé cette théorie depuis très très longtemps. Il y a très peu de mecs pour l'attaquer, en fait. Tobias Harris fait son match. Je vais citer Elias, qui a pour moi la meilleure description du monde qu'on a jamais fait pour un joueur. Tobias Harris, il est gentil. Je peux pas faire mieux que ça. Je crois que là, c'est impossible à dépasser. Il est gentil. Oui. C'est difficile quand même les Hawks vont jamais laisser passer le mismatch avec un Trae Young et Embiid au poste.
Mais,
c'est inimaginable.
Mais il faut le forcer. C'est-à-dire que si tu forces, Trae Young va devoir se battre. En fait, ils vont devoir se battre, du coup, pour ne pas switcher. Et rien que ça, c'est un truc. C'est-à-dire que si c'est le joueur que Trae Young garde qui doit poser un écran, ça veut dire que Trae Young va devoir se battre, va devoir dépenser de l'énergie, doit essayer du coup de garder son joueur. Et ça, c'est quelque chose.
Ouais, mais le mec, ils ont pas peur du mec qui garde Trae Young. C'est le grand problème des Sixers, c'est que on en revient à la genèse du problème des Sixers. Ils ont pas de mec qui pull up à l'arrière. Tu as peur de cette situation-là et un problème pour les Hawks. S'il y a un mec qui pull up, le mec qui défend Trae Young peut pull up à 3 points. Là, les Hawks sont dans une la solution est, ils ont pas de solution pour ça.
Ils pour ont moi, pas faut peur, au moins essayer. Je sais que c'est pas idéal, mais faut au moins essayer. On l'a pas vu.
Ouais, mais parce que tu vois, si Trae Young il est sur Danny Green, vas-y, essaye de fais une passe pour ça me fait pas peur ça.
Mais
je suis Macmillan.
Oui, mais je suis. Enfin, moi je pense que quand même il y a un minimum d'effort que tu dois lui demander défensivement pour rester sur ce fameux joueur pas ouf offensivement. Et cet effort n'est même pas demandé. Il était dans le coin. Je regardais, hein. Je pense qu'on l'a fait tous les deux. À chaque possession offensive des Sixers que j'observais attentivement, je regardais il est où Trae Young, et je le voyais souvent dans le corner quand même.
Ah, j'ai arrêté après le premier quart-temps parce que j'ai compris qu'ils n'ont pas les armes.
Ils
n'ont
même pas essayé. C'est ça qui me dérange. Ça me dérange fondamentalement. Tu sais pas ce que ça peut donner si tu n'essayes pas. T'es à moins 15.
Mais justement, pour moi, là, c'est une des bases de l'erreur de Doc Rivers, c'est d'avoir le toupet d'aligner un 5 100% bon en playoff NBA. C'est ça, le match, il se joue là, hein. Ils sont à moins 11, ils prennent un 8 ou 9-0, ils sont à moins 20, et le match leur échappe là. C'est
fin
une
de
erreur
premier,
assez
début deuxième, c'est
incroyable.
C'est horrible.
C'est une erreur pas possible. Là, j'en parlais, il y a des possessions horribles. C'est Alan qui disait, je crois, Dwight Howard, il va être à Cancun avec les Browns. Enfin, c'est vraiment, il y a une séquence vraiment trop compliquée. Et là, c'est une erreur. Après, la fin de match est intéressante. Certes, ils trappent. Alors, je pense pas, ils peuvent pas faire 48 minutes à presse tout terrain. C'est pas possible. Mais ils sont plus agressifs. Les close-out, je pense que c'est pour ça qu'ils trappent souvent Trae Young et ils sont agressifs sur les aides parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout close-out, ce qui est une erreur parce que les Hawks trouvent toutes les extra-passes. Ils sous-estiment à quel point les joueurs des Hawks sont capables de décaler et de trouver toujours le bon shoot. Ils l'ont fait tout le match.
Il y a autre chose. Il y a quand même un mec qui est quand même plutôt fort défensivement, Joel Embiid, qui n'a pas exactement... ce qu'on pouvait espérer de lui physiquement pour faire certaines actions défensives que je l'ai déjà vu faire, en fait, finalement. Ou quand c'est Joel Embiid qui se présente face au panier, même ton flotteur, ça peut être compliqué. Trae Young est très fort là-dedans, c'est certes, mais je pense que si Joel Embiid récupère ses capacités physiques, déjà, face à ses armes à mi-distance qu'a Trae Young, il est très très fort, certes, je pense qu'il les mettra avec beaucoup moins d'efficacité que des drive and kick où là les shoots ouverts de tous les autres c'est mortel.
Je me méfie quand même parce que Trayon il te la met au-dessus et Capella claque un dunk. Il est trop la passe qu'il fait sur Collins.
Capella ça c'est arrivé souvent Capella dans le dos d'Embiid.
Parce que Embiid peut pas, le mec est trop fort dans cette zone du terrain. Il peut pas Embiid. Moi je pense vraiment que la solution se situe dans être en attaque. Bah en attaque, leur problème c'est que je suis quand même arrivé à la conclusion pendant le match que je me demandais si Furkan Korkmaz c'était pas mieux que Danny Green, ce qui est quand même un vrai problème, hein, soyons honnêtes. La solution pour eux c'est un peu de ce qu'ils ont fait en fin de match, ils doivent les dominer physiquement en fait. Je pense toujours que les Sixers sont favoris dans cette série. Parce que Atlanta met quand même beaucoup de shoots. Alors certes, ils sont de qualité, mais ils mettent beaucoup de shoots. Les Sixers, il va falloir quand même mettre des lancers francs aussi à un moment. Ça, c'est quand même très compliqué de pas mettre des lancers francs. À voir. Mais il y a cette équipe d'Atlanta, on les avait sous-estimés en fin de saison. Faut dire qu'ils sont bons, en fait. Alors.
Mais ils sont montés. Ils commencent mal la saison, mais ils sont montés. C'est comme les Mavericks, c'est pas exactement un 5, parce que la dynamique qu'ils ont sur la fin de saison, c'est plutôt une équipe top 4 à l'Est qu'une équipe 5e, au vu de leur départ.
Ouais, totalement. Donc, à voir, la solution est pas très compliquée pour les Sixers. Hein. Après, ils ont besoin de mecs qui pull-up. On a tout le temps ces discussions là en off, mais les Sixers sont globalement la même équipe, mais je reste pas inquiet, moi. Je suis pas inquiet. Peut-être que je suis fou, hein, mais je suis pas inquiet. Ils vont mettre Tybull, ils vont mettre du Ben Simmons sur Trae Young, et bon, il va quand même faire un 25-10, mais l'efficacité sera moins.
Ils vont pas non plus avoir le même passage avec Tyrese Maxey, George Hill, Dwight Howard, Furkan Korkmaz, qui te pondent un moins 11 sur un seul carton. Les 4, hein, ensemble. Ouais. Hein. Un moins 11, les 4 sur juste le deuxième carton. Et si tu prends toute la première période, c'est moins 14 et moins 15. Enfin, tu peux pas avoir aligné cette line-up. Enfin, personne fait ça. Je me souviens, j'avais quand les Knicks prennent un match face aux Hawks. C'était Nate McMillan qui avait fait cette même erreur où il laisse un 5 full banc et c'est les Knicks qui mettent un énorme run. Tu peux pas en playoff. Les 5 avec que le banc en playoff, même quand c'est que Derrick Rose en face, Derrick Rose, c'est un joueur expérimenté, il va t'allumer, hein, si tu fais ça. Donc faut faire très attention. Les 5 full banc, comme a fait Doc Rivers, c'est interdit. C'est vraiment interdit. Et je pense qu'on ne les reprendra pas. Je pense qu'il l'a vu, mais c'était déjà trop tard.
Ouais, ça c'est. Après, c'est. On n'aime pas taper sur les coachs, mais un coach expérimenté comme ça doit pas faire cette erreur.
Pour le niveau de Doc Rivers, c'est scandaleux.
Après avoir aussi laissé moins de 3 points dans le corner. Les Hawks prennent 17 3 points dans le corner dans ce match.
Et,
17
Et ouverts, hein. Ils sont sacrément ouverts, ceux-là, parce que.
8 sur 17.
Il y avait beaucoup trop d'aide côté faible. Ouais. Enfin. C'est limite un mantra, c'est que aussi fort que tu sois sur les rotations, si tu l'as fait là, le gars aura jamais le temps de close out. Et c'est fini, c'est un point ouvert.
L'ironie du sort, c'est que c'est statsdnba.com, les Sixers sont 29e en termes de 3 points dans le corner concédés. C'est une équipe en théorie qui défend extrêmement bien, qui alloue peu de shoots dans cette partie-là du terrain. Ils en prennent 8 sur 17. Après, peut-être pour revenir sur ce que j'ai dit, Tybull. Le problème que pose Tybull, c'est que c'est impossible à remettre en attaque quand il y a Ben Simmons.
Ouais.
C'est ça, c'est une des problématiques pour les Sixers. J'aime bien faire ça. Ton niveau d'inquiétude, 1 à 10 pour les Sixers.
Je pense toujours qu'à 65%, les Sixers vont passer. Mais mine de rien, 65%, enfin, Faut se rendre compte du problème, c'est que là, c'est défaite quasi interdite pour le prochain match. C'est ça le problème de perdre ton game 1 à domicile. C'est le gros problème de perdre ton game 1. Après, les Clippers en sont revenus et bravo à eux,
Ouais. Puis Atlanta, c'est pas non plus.
mais attention, à 2-0, ça veut dire qu'il suffit qu'ils en prennent un derrière à domicile et t'es dans une situation de quasi-élimination. Ça peut aller très vite. C'est pour ça que je suis pas à l'aise et que je monte les chances des Hawks à 35%.
Sur une échelle de. J'aime bien les échelles de 1 à 10, je dirais. Inquiétude pour les Sixers 4,5. Parce que ouais, tu l'as dit, ils perdent le 1. Après, regarde. Le truc qui m'a plus inquiété, moi, c'est la deuxième mi-temps, le troisième quart, quand Trae Young est moins dedans et qu'ils reviennent pas. Là, ça m'a un peu inquiété, ça. Parce que Trae Young, il fait quoi? Il fait du 10 points, 3 pertes de balles, 3 passes décisives dans le deuxième. Enfin, il est étincelant, il est un peu moins bon, ils sont plus agressifs sur lui et ils maintiennent l'écart, notamment avec un Werther qui fait un bon match. Bref.
Et attention, cette série. Alors, pas de conclusion hâtive, hein, évidemment, mais c'est ce qu'on se dit, c'est que là, ça fait bon une série où il se fait pas attaquer. Là, il y a une deuxième série. Si ça se trouve, enfin, moi, je n'écarte plus la possibilité. Alors qu'avant ces playoffs, j'étais sûr de moi et je pense que tu étais tout autant. Je n'écarte pas le fait que Alan ait raison à ce sujet de Trae Young et qu'en fait. Non, c'est trop fort et du coup que je me sois planté et que ce joueur, c'est pas un Isaiah Thomas absolument impossible à cacher en défense, enfin que ce soit autre chose, du coup que sa force offensive suffise. Je commence à me dire que j'ai peut-être tort.
Je commence à me dire pareil aussi que sa force offensive peut peut-être après on l'a jamais trop considéré comme un Isaiah Thomas parce qu'il est trop fort en playmaking en
Oui.
fait. En fait en attaque il est beaucoup trop fort. C'est sûr, c'est sûr, c'est juste défensivement mais c'est vrai que à voir parce que bref, ça sera peut-être un podcast après playoff mais le mismatch est quand même peut-être que c'est oui. Après, je parle de ce quart de tableau-là. J'allais dire, le mismatch est moins sanctionné. On vient de parler des Lakers il y a 2 minutes qui t'ont prouvé que le mismatch était extrêmement sanctionné. Donc, c'est peut-être aussi un résultat du tableau. Finissons, Madiane, par le Nets. Bucks remporté par les Nets. Mais, je l'avais dit, entaché par la blessure de James Harden dans les toutes premières secondes sur pratiquement la première possession, quoi. Il est plus là. Il s'est reblessé au même endroit que pendant la saison régulière. Il est déjà absent pour le match 2. C'est très bizarre quand on t'annonce que le mec est absent pour le match 2 36 heures avant le match. C'est jamais bon signe. On va pas tirer de plomb sur la comète, on sait pas, mais j'ai peur qu'on le revoie pas sur cette série. Du coup, si on le revoit pas sur cette série, est-ce que tu changes de favori?
Si on ne le voit pas sur cette série, je dis que nous avons une série. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est que la théorie des nets fait que si les trois jouent ensemble, je vois pas qui peut les battre. Mais à 2 sur 3, là on peut discuter. Néanmoins, attention, typiquement, Griffin fait un match. Ça me fait très plaisir pour lui, hein, parce que j'avais peur pour lui physiquement, etc. Il y a aussi d'autres gens qui sortent de la boîte. Donc, moi, je ne redonne pas Milwaukee favori. Il va falloir que Milwaukee cravache pour aller la chercher. Mais s'ils sont bien meilleurs que l'an dernier, ça peut jouer parce que là, on a une première fragilité sur James Harden. Si tu les emmènes loin dans une série physique, moi, je m'interroge toujours sur la durabilité de cette équipe avec des joueurs qui sont pas forcés, qui t'ont pas offert de garantie toute la saison. Donc moi, est-ce qu'un Kevin Durant délesté de James Harden peut pas finir aussi à série fatigué, pas avec la même réussite, on l'a vu, hein, au fur et à mesure des matchs, ça peut jouer. Luka Doncic termine sa série sur les rotules. Et c'est un très jeune joueur, plus fort de son physique quasiment. Donc voilà, attention, moi je pense que ce qui va déterminer, si jamais les Nets arrivent à en prendre encore un au prochain match, les Nets et arrivent à arriver très vite à la conclusion de cette série, je leur laisse leur avantage. Si la série dure, moi je pense que si la série part en 7 et qu'il n'y a pas de retour de James Harden, sur un 7, je donne les Bucks gagnants. C'est vraiment, plus la série va durer, plus j'aurais tendance à dire que les Bucks peuvent la prendre. Il faut vraiment que les Nets la concluent vite parce que c'est cette équipe des Bucks, elle est physique. Ils sont très durs, très costauds. Et je pense que s'ils arrivent à faire valoir ses armes, alors ok, au niveau du talent, basket, balle en main, etc., ils ont des joueurs quand même un peu moins forts. On va pas se mentir. On a déjà parlé des limites des Bucks. Néanmoins, sans James Harden en face, c'est quand même une grosse arme qui est en moins. Ils peuvent clairement la
prendre. Tu as parlé des Mavs. Je vais utiliser une stat des Mavs. Les Mavs, c'est une série qui a été globalement serrée. Et ils se sont fait, à l'exception d'un match 4. Match 4, où ils sont à 5 sur 30 à 3 points et ils sont à plus 20 tout le match. Les Bucks sont à 6 sur 30 dans ce match à 3 points quand même. Ça, c'est... Alors, je me suis refait tous les shoots. Y en a pas mal de difficiles. Mais ça, pour moi, c'est un élément déjà, le premier point dont il faut parler sur ce match 1. Je suis pas sûr qu'on verra les Bucks aussi maladroits dans un match 2. Pour vous donner un petit... une vision historique, j'ai regardé... moins de 25% à 3 points quand t'as un si gros volume. J'ai vu 21 occurrences, 2 victoires en playoff. Tu ne gagnes pas quand t'es si maladroit que ça. L'ironie du sort, oui, c'est que parmi les deux victoires, il y a les Bucks au tour précédent, contre le Heat, le match 1. Et on voit bien que ce qui peut passer contre le Heat ne passera pas contre ces Nets. Après, surtout des Bucks, un peu déçu. J'ai l'impression que on en parlait hier entre nous. J'ai l'impression que Budenholzer, en fait, il a
du sang
pas
sur la
compris
main.
Que James Harden jouait pas. C'est-à-dire qu'il avait une feuille de route. Et je vais faire une comparaison à NFL. Il me fait beaucoup penser à ses coachs Budenholzer qui ont un plan de jeu incroyable sur les 3-4 premiers drives et qui après sont incapables de manager le jeu. Il avait un plan qui est très clair et net au niveau de ses rotations et il les a pas vraiment adaptés à la sortie d'un James Harden. George Hill doit pas jouer, Jeff Teague, pardon, ne doit pas jouer. Pour le reste, j'ai trouvé ça plutôt solide, un peu déçu peut-être d'un Giannis, peut-être pas assez agressif, mais encore il fait son match. Non, c'est plutôt positif, je trouve, ce qui s'est passé pour les Bucks. Ils auraient dû aller le chercher, c'est sûr, quand James Harden n'est pas là, tu dois aller chercher le match, mais ils sont maladroits. Et pour une équipe si maladroite que ça, ils sont dans le match longtemps, quand même. Enfin, ils perdent le match au milieu du quatrième, c'est plutôt bien.
Et il faut se le dire, hein, attention. Alors, ok, on peut critiquer Budenholzer, mais ses rotations sont plutôt longues. Alors, moi, j'aime pas ces rotations de playoff un peu longues, mais il a des rotations longues, et attention, parce que les gars en face, ils ont carburé des minutes, et limite un peu trop. Et quand t'es obligé de faire jouer Kyrie Irving et Kevin Durant un peu au-dessus de la jauge, Kevin Durant joue 40 minutes, Kyrie Irving en joue 44.
Et Kyrie, il sort jamais, il sort genre 30 secondes dans la partie genre vraiment serrée du match, il sort pratiquement pas.
Et en face, tu vois que Giannis, Chris Middleton, Jrue Holiday, ils sont à 36 max. Et Budenholzer, c'est un défaut, mais ça peut devenir sa qualité dans la série. C'est-à-dire que, par exemple, s'il continue sur cette lancée, que, par exemple, ils prennent un game 2, parce qu'ils shootent un peu mieux, etc., ils arrivent à Milwaukee, ils peuvent prendre un 3, ils peuvent emmener la série loin, et ça va se fatiguer en face. Donc, attention, comme dit, ils sont plus courts, les Nets, niveau rotation, donc les Nets ont vraiment intérêt à finir ça vite, et limite, balancer toutes leurs armes maintenant, parce que dans 4-5 matchs, les gars en face, ils seront un peu plus frais, et ça fait toute la différence. Il y a des Game 7 où tu vois que les gars, ils arrivent à peine à shooter. Il y a des accidents de shooting et de scoring dans des Game 7 absolument terribles qui arrivent. Pourquoi ? Parce que les gars sont rincés, donc il faut faire très très attention à cette dynamique-là.
Après, vis-à-vis des Nets, c'est surtout... ils ont plutôt bien géré le rebond sur ce match-là. Je me demande à quel point ça peut perdurer, ça. Parce que Kevin Durant fait un premier quart-temps quand même qui est assez incroyable au niveau de la protection du cercle. Ça a changé un peu parce que le chouchou d'Alan Claxton fait une bonne deuxième mi-temps. Ça a beaucoup changé à ce niveau-là, mais je me méfie de la capacité à répéter ça. T'as parlé de Griffin.
Griffin, il fait pas ce match plein de fois. Hein.
Moi, je suis Budenholzer. Si je me fais battre par des 3 points de Blake Griffin, ok. Il y a quand même un moment dans le match où Blake Griffin avait autant de 3 points inscrits que les Bucks. Enfin, c'est pour vous rappeler un petit peu dans le genre d'univers paranormal où on était. Donc, faire attention à cela. Arrêter de mettre du GFT qui s'est fait atomisé par Kyrie. Kyrie qui a fait un grand match offensif, mais défensivement, on a vu plus d'une fois que les Bucks avaient peut-être une brèche à ce niveau-là. Donc, à voir sur les rotations, ces rotations-là. Joe Harris a été un peu discret à se méfier d'un match où il arrivera le match où Joe Harris va te mettre 5-3 points. Je m'en veux, hein, mais je serais presque tenté de mettre les Bucks favoris maintenant parce que je trouve que ce match-là est plein d'espoir pour eux. Kevin Durant devra jouer comme aux Warriors sur certaines séquences où il doit protéger de la raquette, être ultra bon en attaque, et je sais pas s'il peut faire ça matchs.
En tout cas, il l'a montré, hein, par séquence. Moi, je trouve ça très, alors, pour la santé de Kevin Durant, pour l'instant, je trouve que c'est très rassurant,
ouais.
Ces matchs-là où on le voit, parce que je le trouve, enfin, bon, hein, c'est Kevin Durant, hein, mais, C'est vraiment très rassurant. Là où je suis inquiet, c'est effectivement dans la répétition de ses efforts, est-ce qu'il y arrivera ? Mais d'un autre côté, je me dis, il n'a pas joué la bulle. Si ça se trouve, c'est peut-être pas il est peut-être pas si moins frais que les autres, parce que il n'a pas joué depuis un moment, certes, mais les autres sont peut-être en face beaucoup plus cramés que ce qu'on peut imaginer.
Après, tu l'as dit, Budenholzer, c'est un mathématicien des rotations. Ils sont pas cramés, les Bucks. Hein. C'est pas les Knicks.
Ah non, non. C'est pour ça. Moi, je pense que la série, si elle part en 7 ou en 6, les Bucks ont de bonnes chances de la gagner.
Ouais. Ensuite, vis-à-vis des Bucks, non, défensivement, moi, je les ai trouvés plutôt intéressants. Il y a des moments où tu peux pas défendre. Enfin, KD, ce qu'il leur met, PJ Tucker a fait un bon match, mais il y a des moments où tu retires ces minutes-là que tu alloues à un Jeff Teague, même pas de Connaughton, t'es à la limite de ce qui est acceptable sur des playoffs, tu remets ça sur du PJ Tucker qui doit jouer plus, Lopez, c'est Nate Duncan dans un de ses podcasts qui disait aussi que Budenholzer au niveau des fautes, il est trop frileux, c'est-à-dire qu'il sort un mec en anticipant la faute d'après. En playoff, tu peux pas faire ça, surtout contre ces nets-là. Tu dois être ultra agressif dans ton coaching. Quand il sort Lopez à un moment parce qu'il a peur qu'il en prenne une de plus, Lopez est trop important pour eux, surtout pour ce rebond-là, qui est, on sait, peut-être le tendon d'Achille, le talon, on parlait de Kevin Durant, le talon d'Achille de ces nets, donc faire plus du jouet de Lopez aussi. Enfin, réduis tes rotations.
Et c'est presque étonnant, je dois avouer, cette gestion des fautes, parce que, enfin, il me semble bien qu'il vient de l'école du coach des Spurs, qui lui avait réussi, je trouve, dans ses meilleures années, à avoir cette prise de risque ultra payante sur certains matchs où il laissait des gars tourner en mode, non mais, prendra pas la faute. Parce que il prenait plus le risque. Alors des fois, il s'est fait avoir à son propre jeu, mais je trouve qu'il vient de cette école-là et c'est étonnant de le voir faire ça. Mais d'un côté, c'est pas la première fois qu'on a des choses comme ça à reprocher à Budenholzer, parce que mine de rien, enfin, les fautes n'ont pas vraiment été un souci. Alors on dira oui, mais c'est sa gestion. Il y a personne qui était proche de se faire expulser dans ce match au bout du compte. Donc en fait, il a pris des précautions pour rien sur cette affaire-là. Et c'est dommage, je trouve que Budenholzer est trop conservateur. Et malheureusement, dans les playoffs, les all-in, ça marche.
Est-ce qu'il prévoit pas toujours qu'il y a... J'ai l'impression que Budenholzer, parfois, coach tous ses matchs. Et plusieurs l'ont dit, ça, je l'ai lu partout. Budenholzer, parfois, il coach ses matchs comme s'il allait avoir un moment clutch où le match sera à moins 3, à 3 minutes de la fin, et qu'il est là, c'est impossible de ne pas mettre tes meilleurs joueurs, donc en prévision, il les sort avant pendant le match. Ce qui se comprend, parce que si tu refais un peu le fil du match, quand il sort un Brook Lopez, par exemple, le match est serré, le match est à moins de 5 points, donc peut-être qu'il anticipe ça après. Mais plus agressif, réduire les rotations... Giannis, je continue, c'est ma grande théorie de Giannis cette année, il doit prendre des shoots à 3 points, parce que on l'a vu, hein, il y a 2 ou 3 démarrages sur Griffin, il est dans le rétro direct. Donc, qu'il continue à prendre ces 3 points-là pour par rapport à la défense, ils vont mettre leur shoot, mais
et
les Nets
mettent ses lancers francs.
Mettent ses lancers aussi, il rate beaucoup de lancers.
Non mais là, il en a pas mis un seul. Enfin, il a pas provoqué cette faute, ok, mais au-delà de ça, pas mettre un seul lancer, c'est honteux.
Après, c'est Adrien qui disait ça, qu'il doit plus driver. Giannis, je me demande si inconsciemment, quand personne met un shoot externe, est-ce que t'es pas tenté de moins driver en te disant je peux pas kick parce qu'en fait personne ne... si je le ressors personne ne met. Donc à voir. Un truc à rajouter, Madiane, sur cette série du coup.
Non, mais enfin, je pense que là le game 2 va être extrêmement décisif parce que si les Nets le prennent, dans ce cas, on verra le développement de la série parce que Milwaukee est tout à fait capable d'égaliser derrière. Par contre, si les Bucks le prennent, ils gagnent du temps en fait dans cette série. Et comme dit, plus tu gagnes du temps dans cette série, mieux ça sent parce que quand même, j'ai pas forcément l'impression que James Harden pourra revenir de toute la série, de ce qu'on entend.
Ouais, ça paraît de. Ouais, on n'est pas médecin, mais de ce qu'ont pu dire les médecins interrogés par certains médias, ça a l'air compromis. Quand même, le retour d'Harden, et ça, moi je t'avoue que ça m'attriste beaucoup parce que t'as aucune équipe à 100%.
Mais c'est surtout que là, c'est peut-être l'équipe ou la théorie de cette équipe. C'est, enfin, moi je les remercie d'avoir tenté le truc parce que c'est trop bien de voir ça. Enfin, vraiment, moi qui suis un observateur un peu neutre avec pas forcément d'équipe favorite, même si on m'affuble l'Enix, je comprends pas trop pourquoi.
Il y a 15 000 raisons, mais vas-y.
Parce que je les regarde beaucoup trop, certes, mais en tout cas, en tant qu'observateur là un peu neutre de ces séries et du parcours des Nets, voir un line-up comme ça aligné, on verra pas ça souvent en NBA. Et rien que pour ça. C'est dommage de pas les voir à 100% parce que les trois ensemble, c'est tellement drôle. Tu t'imagines les rotations où t'en as systématiquement deux sur trois. Enfin, c'est tellement un casse-tête. Et du coup, tu vois comment l'autre gars essaie de répondre. Enfin, les espaces que ça libère pour Joe Harris. Enfin, c'est juste génial de les voir tous ensemble. Et j'ai envie que James Harden puisse revenir.
C'est là où je me demande, Nash va faire quoi dans le match 2 parce que il peut pas refaire jouer Kyrie 44 minutes.
Non.
Est-ce que c'est plus de James en sortie du banc? Qu'est-ce qu'il va
Bruce
faire?
Bruce Brown.
Qu'est-ce qui? Parce que il faut un mec. Tu vois, et comme je pense que les minutes jouées par Kevin Durant sont pas totalement extravagantes. Celles jouées par Kyrie le sont.
C'était trop pour Kyrie, mais moi je pense que Bruce Brown jouera plus après. Moi je me pose la question. Je sais pas à quel point il peut jouer, mais. J'ai pas l'impression que TLC a forcément le skill set trop négatif en playoff.
Ouais, il faut
moi,
jouer.
Pour moi, tu fais. Alors, c'est forcément, c'est moins bon hein, au niveau qualité, mais tu fais jouer Bruce Brown peut-être aux alentours de la trentaine de minutes. Tu complètes avec ce que tu peux, notamment du coup, moi je pense que TLC peut jouer parce que, comme dit, défensivement, ça m'a jamais semblé être un joueur si négatif défensivement. Il y a également Mike James, peut-être qu'il jouera un peu plus. Il a déjà joué pas mal hein, dans ce Game 1. Voilà, peut-être qu'à 3, tu peux compenser ces minutes en se disant bah là, c'est pas grave, c'est pas des joueurs de qualité de la qualité de James Harden. Du coup, c'est pas grave là de faire plus de rotation parce que tu échanges des joueurs un peu moyens. Du coup, c'est par leur fraîcheur qui pourront compenser leur manque de talent comparé à James Harden.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va finir, Madiane. On est donc revenu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast à deux, c'est bizarre. Hein, sur ce tête-à-tête, ça faisait longtemps. En tout cas, on a donc parlé... Vous inquiétez pas, on va aussi parler d'autres équipes de l'Ouest, de celles qui avancent. On vous l'a dit, YouTube, on va prévoir un live dans un peu de temps, puis on va peut-être sortir un peu de contenu. Je fais quelques teasings vis-à-vis d'une certaine équipe à l'ouest où il y a du mouvement. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter et également à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast. On vous souhaite une très bonne semaine de playoffs et à la semaine prochaine.
Tchuss.
Salut!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.